Musique du monde. Laurence Alloa. Tegui Mfatroré. Musique du monde sur RFI.
De la Vielle Aroux à Maria Carré, voilà le type d'exercice auquel se livre Musique du Monde aujourd'hui. Dans une demi-heure, nous recevrons Guillaume Desque, un jeune vielleur 2.0. Mais nous ouvrons avec la sélection inattendue de Sophie Orphanen, très orientée Female Trouble, première de cordée la sud-coréenne Peggy Goo. J'espère que vous aimez l'électro, parce qu'autrement, je vous perds. Reste. Oui, maîtresse. Bonsoir. Sur l'axe Séoul-Londres-Berlin, c'est la scène électro représentée par Peggy Goo. Alors c'est une sud-coréenne qui a donc beaucoup voyagé. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année, monsieur Sophie Orphanen.
De même.
Qu'est-ce que je vous souhaite ? De quoi vous avez envie ?
De musique, toujours.
Je pensais que c'était la jeunesse éternelle, le transhumanisme. Et...
Oui, mais avec de la bonne musique.
Surtout avec de la musique.
Surtout avec de la bonne musique. Parce que vieillir sans bonne musique, ou même rester jeune sans bonne musique.
Rester jeune avec de la bonne musique. Donc Peggy Goo, c'est le premier titre que vous avez choisi dans cette programmation. Alors il n'y a que des filles pour cette nouvelle année, c'est bien. La femme est le futur de l'homme.
Exactement.
Cela dit, maintenant elle s'en fout un peu, donc qu'il se débrouille. Alors, quel est le thème de cette programmation? Qu'est-ce qui réunit toutes ces cinq femmes que vous avez choisies aujourd'hui, Sophia?
Ce qui les réunit, c'est l'amour, probablement. Enfin, c'est que des morceaux, soit de très tendres, soit des morceaux pour vraiment danser ensemble. Et ce morceau de Peggy Goo, là, It Makes You Forget, c'est vraiment ça. Ça a vraiment été un hymne, on va dire. Le mot n'est pas trop fort. Ce morceau est devenu un hymne courant 2018. Il n'est pas tout frais, hein, il est sorti en milieu d'année dernière. Mais il a comme traversé la Terre entière. Il a été remis remixé beaucoup aussi, il a été beaucoup repris. Moi, je l'ai entendu, j'ai pas pu mettre le pied dans un club en pleine nuit, où que ce soit en France ou ailleurs, sans entendre ce morceau. Et à chaque fois, c'est un vrai plaisir d'avoir cette sorte d'évidence mélodique. Le morceau est très simple, très magnifique, et tout le monde se met à chanter, même à essayer de faire les paroles. Et donc les paroles sont en sud-coréen, dans un yaourt improbable, avec les bras en l'air, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce plaisir-là sur un morceau aussi partageur.
La langue sud-coréenne est très, très, très connue en Asie grâce à la K-pop. Hein. Je sais qu'en Thaïlande, il y a beaucoup des étudiants qui se mettent au coréen pour comprendre les paroles de leur groupe préféré. Donc c'est presque un langage international.
Exactement.
En tout cas en Asie du Sud-Est.
Mais c'est relativement nouveau dans cette forme house. Parce
D'accord.
que là, le morceau Peggy Goo, c'est un morceau de house music. C'est assez classique, hein, même s'il y a les petites percussions, etc. Jusque-là, elle chantait pas beaucoup. Elle s'est mise à chanter sur ce morceau, c'est presque plus parlé d'ailleurs, hein. Elle y va avec beaucoup de prudence, elle se prend pas pour une grande chanteuse, elle a pas invité quelqu'un pour avoir une voix sublime, mais ça marche vraiment bien parce que c'est un morceau très personnel qui raconte des histoires de choses que chacun voudrait oublier, toutes ces choses qu'on voudrait oublier mais qu'on n'oublie jamais parce qu'elles font fondamentalement partie de nous.
Elle est partie de Séoul parce que là-bas, la musique qu'elle avait envie de jouer ne correspondait pas du tout à ce qu'elle avait en tête. Est-ce que Séoul était le bon endroit pour faire de l'électro ?
Séoul est un endroit un peu plan-plan pour faire de l'électro, on va dire. Effectivement, il vaut mieux faire de la pop très commerciale.
Sirupeuse.
Voilà, l'underground coréen, c'est complexe. C'est vrai qu'il y a une scène, il y a une industrie de la... Alors, pour le coup, le mot est pas fort. Il y a une industrie de la musique, de la pop sud-coréenne qui est tellement puissante, c'est une sorte de bulldozer permanent, que l'underground est assez peu représenté, même s'il y avait un peu de toutes les musiques. Il y a une grosse scène métal, notamment en Corée du Sud, mais la scène électronique, on doit dire qu'elle n'est pas très représentée. Et Peggy Goo est partie pour Berlin, pour d'autres raisons, parce qu'elle fait aussi, elle a pas mal travaillé dans la mode, elle a pas mal vécu à Londres également. C'est vraiment partie de cette génération de gens qui sont en même temps graphistes, stylistes, musiciens, étudiants, qui sont un peu tout en même temps, les fameux slashers, vous voyez, des gens qui ont une vingtaine d'années et qui ont cinq métiers. Et puis selon le moment de la journée, selon le mois, selon l'année, selon ce qui rapporte un petit peu d'argent à ce moment-là, ils sont plutôt musiciens. Peggy Goo en ce moment, elle est plutôt musicienne.
La suivante a plutôt un continent, Back to the Roots, retour aux racines, c'est l'Afrique.
Hey yo, Ndemokazi. Yo, let's go. Amanya gange yalla MC Omson Suzi. Nanyi ni rap ukabito mkapala sitwala besilia. Dimu tonto minkolo mwini mbuoku tunde njuba. Tough side yange kwe wachito waganze. Na wangu lentalo kuvebu vanjuba. Kata kubu kwanjuba. Miti twale keyo lunolito. Dwalu kuludweru niwa. Dwalu kulobadweru to. Ninga musananjo chankaza mkuja koda. Siri mkaka mundi mkambu atene malidira. Sita savu kukwenju kaira tochida. Gamo kudamo okuda. When I'm very full of mood, Tony Miss and Chipo, Zinna from Sam, Sanga, which a judge him one day, Bible, you know, Chikuti, Katukosula Josie Gazza, and Pumu, a Jamichi Tunu, Josempes and Coco, Katimwe Coco, Zempu, Atenga and Democracy, Aja for the Bonesha Mandara, Democracy, Aja for the Bonesha Mandara, Democracy, Aja for the Bonesha Mandara. Fala mulia chuba ate wembaga na kuba Japan kashigura chonde tira Iran chisabiti wana sanze katintonye sangu ambia era kwata munza wo bangu sala kone mbi kujako ate tonenya zena kusoka wo sifa kuno siwa musoro uli chisaza chibanga ko mubakambwe kwatemu era gonengera koduka mubantu abali na magesi nze yalandi na mbemu we toli big toli satu toli ya de 10 nemu uboli liye vugogonda zendi toke dene ninga muli wa deta ya samanze kuya kuya vwenti Owo bunike to sebola kuta muna kwasa ma kati nze nyambala butonya uruja mosikirira ne bobo ofuga benzi zani nokumulisisa kubanze nkulembe denze ntumula jolaga bobo meka tamberenge nze nga yanje na bayinja atenga ndi mukazi oya teraga eye gwe chitiba ngo mukazi bali nokuba gwe kwata ku microphone robo chira babulabi gwe nyingira mu chitundu ne sitani yevuma aha ne sitani yevuma acha kunibonesha mandara
Elle Elle s'appelle MC Yala, le titre c'est Ndi Mukazi. Alors elle est originaire d'Ouganda, visiblement elle vit au Kenya, mais en même temps elle ne me prévient pas quand elle déménage, donc je ne peux pas être tout à fait sûre de mon information. Sofian, pourquoi vous avez choisi MC Yala?
C'est vraiment des musiciens qui bougent beaucoup, qui bougent trop en fait, on ne sait jamais où ils sont, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils revendiquent en fait, comme lieu, comme territoire, comme nationalité, comme c'est vraiment la jeunesse internationale, on peut être sud-coréen, ougandais, vivre au Kenya ou à Londres ou à Berlin, c'est pareil.
J'ai entendu le mot démocratie qui revenait souvent dans le morceau. Après la langue, j'ai un doute si c'est du swahili ou pas. Puisque...
Je ne saurais vous dire.
Bah, voilà, donc amis linguistes, n'hésitez pas à nous tacler sur Twitter. On vous répondra peut-être.
Et excellent morceau, sorti sur un label qui m'a fait l'année entière, qui s'appelle Hakuna Kulala, qui est un sous-label de Niégué Niégué Teps. Vous vous rappelez, on avait parlé longuement de ce très bon label qui fait aussi un festival, Niégué Niégué.
Festival en Ouganda.
En Ouganda, à Kampala. Et
ils ont l'air de bien s'éclater, je les suis sur Instagram.
Ça a l'air incroyable.
Et faut c'est, pas dormir.
En fait, ils sont devenus l'un des points de fixation de la musique électronique en Afrique de l'Est. Et ils ont lancé ce sous-label. Alors, eux, ils disent c'est pour les musiques d'avant-garde. Sauf que, bon, Niégué Niégué Tep, c'était pas non plus la musique pour les supermarchés, déjà. Mais là, c'est vraiment musique de club. Niégué Niégué a tendance à être un peu plus vraiment rap, un peu plus revendiqué hip-hop. Là, on est vraiment dans un truc très électronique, mais vous voyez, on est aussi dans quelque chose de très rappé avec ce premier morceau de MC Yala qui est sorti juste sur un single. En fait, ils sortent juste des singles, des 2-3 titres. Ils ont notamment, il y a aussi sur ce label un garçon qui s'appelle Slickback, qui est une sorte de star là-bas, qui est un vieux, il doit avoir 35 ans, donc c'est un vieux de la scène en Ouganda. Et vraiment, label, enfin, je crois que tous les disques qu'ils ont sortis cette année étaient passionnants. Et vraiment, ce MC Yala est une sorte de claque, et je trouve ça, pour le coup, elle a un son sur ce morceau-là assez atypique. On n'est pas du tout dans les trucs très secs. Bon, il y a quand même ces rythmiques très très sèches, mais l'arrière-plan, on dirait de la musique ambiante, un peu biosphère, un truc très européen. On a l'impression qu'ils sont allés enregistrer des sons dans la nuit pour faire une musique très nébuleuse, très brumeuse, etc. Et qui sert de tapis à cette voix complètement urbaine et complètement frontale. Et je trouve que le mélange des deux marche vraiment bien. Et je trouve qu'elle a un son sur ce morceau qui est à contre-courant de tout ce qui se fait même dans la région, où c'est beaucoup plus foisonnant, détonnant, etc. Et là, il y a ce truc très fantomatique qui est magnifique, je trouve, sur ce morceau.
On continue sur la piste des contrebandiers. On arrive en Afrique du Sud avec Show Majosi.
Yeah.
Je crois qu'on a compris l'idée maîtresse, c'est Ukunombia. Elle s'appelle Shomajosi. Le titre, c'était Huku Ukunombia. Alors, c'est son premier album, je crois.
Oui, oui, c'est quelqu'un qui arrive tard dans la musique. Un peu comme on parlait tout à l'heure de Peggy Gou. C'est quelqu'un qui a été styliste, qui est graphiste, qui est danseuse, enfin, qui est pianiste. Donc, elle fait un petit peu de tout. Et elle a sorti l'année dernière cet album. En fait, elle a approché un garçon qui s'appelle Okmalum Kulkat, qui est une sorte de parrain de la scène Gekom sud-africaine à Johannesburg.
Alors, la scène Gekom, Skoum, c'est.
Oui, j'arrive jamais à le prononcer, donc oui, je dis à la française de façon moche.
C'est l'Electra House qui est née dans les bidonvilles, dans les townships de Durban, qui est donc pas à Johannesburg, mais qui est du côté de l'océan Indien. Voilà.
Et il y a bien entendu des représentants du côté de Johannesburg autour de ce garçon qui s'appelle Okmalum Kulkat, qui avait sorti un album plutôt. Enfin, qui a sorti plein de disques qui vont vers une électronique beaucoup plus européenne, mais qui a aussi fait beaucoup de morceaux très, très actuels pour la musique sud-africaine. Et Shomajosi l'a approché plutôt pour écrire des paroles, éventuellement pour faire du graphisme, etc. Et puis il a dit non, mais tu peux te lancer aussi, tout le monde peut faire de la musique. Elle s'est mise à chanter, à rapper, etc. Et je sais pas, elle a réussi à rassembler pas mal de monde derrière elle pour finir par sortir son premier album qui a été un des gros succès de l'année en Afrique du Sud, et notamment ce morceau Huku, qui est un album qui a le mérite d'être, pour moi, c'est un classique pop de 2018 et j'espère 2019, parce que je pense que ce disque peut avoir une vie internationale, et je lui souhaite vraiment. C'est le moment enfin qu'on arrive à avoir des disques qui marchent en Afrique du Sud et puis qui s'étendent dans le monde entier, et pas seulement des singles, etc. Qu'on ait vraiment quelqu'un dans la musique électronique très pop, très moderne, très actuelle. Je pense que c'est un disque qui peut vraiment aller loin, parce qu'il y a une évidence, il y a des mélodies très fortes dans ce disque, et ça rassemble au niveau rythmique. Donc il y a de la Gekoum, et il y a aussi du Shangan Electro. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce courant musical.
Oui, c'est une sorte de Tsonga Disco.
Voilà, de Tsonga Disco très 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 speedé, oui. Qui vient notamment de Soweto, et elle reprend ça à son compte, et il y a des morceaux comme ça très très Shangan, un peu moins speed que ces dernières années.
Il ne faut pas oublier qu'elle vient du Limpopo, hein, c'est l'ancien Transvaal, et c'est une région particulière au nord de l'Afrique du Nord, avec sa culture à elle, dont le Shangan. Elle est métisse, hein, le papa est blanc et la maman est Tsonga, et c'est pour ça qu'elle chante en Kitsonga. Donc voilà. Elle ne représente pas une culture, mais enfin quand même.
En fait, elle rassemble un petit peu. Je trouve qu'il y a vraiment un côté rassembleur dans son disque. Elle va se nourrir de rythmique déjà de toute l'Afrique du Sud. C'est vraiment quelqu'un qui rassemble et qui n'est pas dans un coin non plus. Et ça dépasse. Alors, elle vit entre Londres et elle a vécu un petit peu aux États-Unis. Elle a vécu un peu au Sénégal. Elle parle français visiblement.
Beaucoup d'études dans des universités d'art, effectivement.
Voilà. Et voilà. Peut-être que l'année 2019 est l'année internationale de Shomajosi. Vraiment, c'est tout ce qu'on souhaite. Et dans tous les cas, ce disque vaut vraiment plus qu'une écoute parce qu'il est très bon.
Sophia Fanon, 14 heures de vol et nous sommes à Londres.
Don't say only want affection. Don't say you only want affection. You threw it all away and it can't go on. I threw it away with all of your confessions. Then we could hold on, or we fall. If you go on, then I'm gone. Yeah, you know we could make this thing right. Yeah, you know. You know we could make this thing right. Don't be scared. We know it was wrong all along. Yeah, we know. Standing in the light looking for the shadow. And you only got the night. Don't be lonely. When you know you gotta make this thing right. Don't be scared. Don't look bad. Make this thing right. Then you know.
morceau de piano. Stevie Wonder.
C'est très virtuose, non ?
Oui, c'est cela. Oui. Elle s'appelle Tirza. Tirza, c'est une jeune productrice londonienne, mais enfin qui est quand même sur le terrain depuis quelques années. Et pas toute seule, elle a sa copine Mikachu qui n'est pas loin d'elle et avec laquelle elle a travaillé. Mais je vous laisse présenter cette jeune fille.
Oui, c'est un duo même presque, parce que Mikachu et Tirza, donc Mikachu et Mika Levy, sont allés à l'école ensemble, à l'école de musique à Londres ensemble, et donc ont toujours, en gros, toujours composé ensemble. Tirza n'était jamais bien loin, et c'est Mika Levy qui produit l'ensemble du disque. C'est vraiment une co-création.
C'est un album qui est truffé de chansons d'amour, si j'ai bien compris.
Ah oui,
quand on est en manque d'affection,
qu'un
au fond,
disque
sur cet album.
D'amour. Voilà. Et c'est un disque, voilà, on est en train de l'écouter au casque dans le studio, c'est un disque qui passe bien au casque. C'est vraiment un disque presque à contre-emploi, à contre-courant, presque qui est dans une sorte de la négation de notre époque. Déjà, c'est un disque, donc Tirza, ça fait un bout de temps qu'on l'attend. Elle a sorti elle a un peu explosé, c'est un grand mot, mais elle est devenue visible en 2013 avec un premier groupe de morceaux, notamment il y a un morceau qui s'appelle I'm Not Dancing. Et depuis, ça fait quand même 5 ans presque, on attendait son album. On disait, mais qu'est-ce qu'elle fait Tirza quand même? Ça fait un petit bout de temps et tout. Et en fait, ce disque, son premier album, Devotion, est presque un rejet de la rapidité de notre époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, les musiciens, ils sortent un morceau, deux morceaux, ils signent sur un label l'après-midi, et ils sortent un album 3 semaines après, et ils en ressortent un 6 mois après, ils en ressortent un 6 mois après, et entre les deux, ils sortent des singles, des vidéos, des trucs. Tirza, pas du tout. On l'a pas vu. On a eu les mêmes morceaux à écouter pendant 5 ans. Et elle a presque. Et elle fait un album d'un minimalisme absolument total.
On peut dire.
Voilà, c'est vraiment. Il n'y a pas grand chose à chaque fois. C'est comme si elles avaient épuré, si elles avaient passé 5 ans à enlever, à aller jusqu'à l'os complète de leur musique. Ce qui fait que ce disque.
On est dans la moelle. Hein.
On est dans la moelle complète. Et moi, ce disque-là. Au premier abord, j'étais déçu parce que je me suis dit, c'est quand même, c'est pas grand chose cet album à la fin, c'est une petite chose. Et en fait, c'est le genre de petite chose qui est tellement truffée de petits détails, et tout a été tellement, non pas réfléchi, mais intériorisé. C'est un truc très, très charnel, très corporel. Et on sent que ce disque a traversé tellement des années de vie et de corps et d'échanges, etc., qu'en fait, il n'en reste que ce qui est important. Et c'est en l'écoutant, c'est un disque qui mérite des écoutes, et on rentre dedans, et c'est un disque qui va durer comme ça des années, des décennies probablement. C'est pas du tout un disque qui se jette à votre visage pour dire hey, regardez, c'est super bien ce que je suis. C'est un disque lent et un disque à mèche lente, c'est souvent les meilleurs.
Alors en parlant de mèche lente, je pense à des mèches sauvages
avec un brushing
du Dolly Parton New Look. La dernière fois, vous avez réussi à nous imposer Kanye West, très bien. J'ai passé l'année, les fêtes. Bon, bref, il a fallu que ça passe, Kanye West. Et là, vous allez terminer cette programmation avec, je vous le donne en mille, c'est la première fois qu'elle passe dans l'émission et je ne pensais pas un jour la diffuser dans les musiques du monde, c'est Mariah Carey. Donc, je vous demande de développer gentiment. J'ai sorti les pinces à crocodile, donc vous avez intérêt à être brillant. Sofian Fanon.
Et pourquoi pas, tout d'abord,
oui.
en première
intention. Dans Musique du Monde, c'est pas tout à fait le son, mais enfin,
exactement,
je vous écoute.
Exactement, mais il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce morceau, donc qui s'appelle GTFO, donc Get the Fuck Out. C'est le morceau qui ouvre le nouveau, et je crois, 15e album de Mariah Carey. On s'en moque un peu, d'autant qu'il y en a au moins 14 pas bien. Donc, c'est...
et on n'est pas dedans, là, c'est le 15e bon. Alors.
Voilà. Donc, il ouvre ce album, et en fait, c'est le morceau de quelqu'un qui n'a plus rien à faire, qui n'a plus rien à prouver, et qui se paye un super morceau. C'est, donc le morceau est produit par un garçon qui s'appelle Anthony Paul Jeffries, qu'on connaît plutôt sous le nom de 1985, qui a notamment composé pas mal de morceaux pour Drake. Et il y a aussi une jeune fille qui s'appelle Bibi Borelli, qu'on voit pas mal en tant que compositrice de morceaux en ce moment. Elle a aussi sorti des morceaux sous son propre nom. Et c'est Mariah Carey qui dit aux petits jeunes... faites-moi de la musique, puis moi je viendrai chanter, et puis on verra ce que ça donne. Et ça donne une sorte de minimalisme nocturne, très beau, très tendre. Mariah Carey, elle sait chanter, on peut pas lui enlever ça. Après, on n'aime pas sa voix, mais il y a quelque chose d'assez éteint, d'assez. Elle est pas du tout, c'est pas du tout la Mariah Carey qui vocalise avec une robe à paillettes à Las Vegas.
Dans le clip, elle s'est quand même habillée.
Parce que c'est Mariah Carey. Mais il y a quelque chose de très contenu et de presque bizarre. Et je trouve ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire en France. France et globalement en Europe, mais surtout en France, c'est des mégastars. Mariah Carey, c'est quand même la mégastar qui tâche, un peu fatigante, etc. Avec ses frasques et puis des morceaux pas toujours géniaux, il faut bien le dire, même s'il y en a eu encore une fois des biens. Mais qui arrive avec un morceau qui musicalement est vraiment intéressant et qui est à jour, qui est moderne, qu'on peut écouter en disant mais c'est vraiment Mariah Carey que je suis en train d'écouter et que je suis en train d'apprécier. Et nous, on a vraiment du mal à avoir des mégastars. Ça n'a rien à voir, mais Johnny Hallyday.
C'est pas Mick Jagger.
J'aurais aimé
au niveau
que...
de la renommée.
Oui, et puis on n'arrive pas à avoir l'équilibre entre mégastar et mégastar qui va s'intéresser à de la musique et qui va essayer de produire une musique qui colle avec son temps et qui écoute son moment et qui n'est pas figé dans une sorte de fantasme du passé ou du fantasme de ce que ce chanteur ou cette chanteuse devrait être. Et globalement, nous, on a beaucoup de mal à avoir ce rapport très distancié-là. Et les Américains ont beaucoup plus de facilité. On l'a vu avec Johnny Cash. Il y a plein comme ça de musiciens qui ont des carrières improbable qui part dans tous les sens et qui sont capables à la fin, enfin c'est pas la fin de la carrière de Mariah Carey mais elle a 50 ans, qui sont capables d'arriver après 20 ans, 25 ans de carrière avec un morceau où on se dit waouh, pas mal du tout.
C'est une chanson sur la rupture.
Comme toujours avec Mariah
Carey. Alors le clip, hein, c'est pas du David Lynch, hein, ça se passe dans une maison qui est assez sombre et elle arrive dans des tenues complètement extravagantes. Elle se met dans la cuisine, on pense qu'elle va faire des crêpes, mais en fait elle est dans une position, on ferait plutôt du yoga. Enfin je ne sais pas ce que c'est. C'est Mariah Carey, c'est un choix de Sofiane Fanon. Je répète, Mariah Carey est un choix de Sofiane Fanon. Je répète encore une fois, non ça va, c'est bon. Voilà, c'était Mariah Carey, c'est un choix de Sofiane Fanon comme tous les autres artistes qui sont passés dans ce début d'émission pour les coordonnées, le titre des morceaux, des albums, c'est la page Musique du Monde sur le musique.rfi.fr. On a eu Kanye West, Mariah Carey ces deux derniers mois, le mois prochain, qu'est-ce que vous nous réservez, un truc un peu, je sais pas,
j'ai lu Ed Sheeran.
Merci et bonne année Sophie et aux auditeurs.
Musique du Monde sur RFI.
Du R&B au néo-baroque, le pas est franchi avec le vielleur, donc le joueur de vielle Guillaume Desk et son nouvel album Vision. On pénètre un monde plus discret, celui de la vielle à roue, un instrument à cordes frotté par une manivelle avec un petit clavier. C'est un instrument vieux de 1000 ans que certains trentenaires affectionnent. Ça c'est chouette. Que les gens de votre génération, vous avez à peine 30 ans, jouent sur un ordinateur, font du hip-hop, la voix avec l'autotune, tout ça. Vous, vous jouez de la vielle à roue. Alors comment ce très vieil instrument à cordes est entré dans votre vie?
Alors c'est très simple, il suffit d'avoir un père qui fabrique des vielles à roue. Et dans ce cas-là, ben, on n'a pas le choix en fait. On y est forcé dès son plus jeune âge. C'est un instrument qui n'est pas très connu. Avoir un père luthier, c'est une façon d'aborder l'instrument, mais il y a quand même toute une communauté, surtout au niveau des musiques traditionnelles en France, une communauté de joueurs de vielle à roue et de fabricants. Il y a le papa luthier qui a transmis et il donne aussi des cours au conservatoire. Il donnait des cours au conservatoire du Tarn à Albi, donc j'ai suivi les cours au conservatoire avec mon père. Du coup, bon, j'ai commencé très jeune et à l'adolescence, j'ai fait en quelque sorte un petit peu une rébellion des musiques traditionnelles. J'en avais un petit peu marre de faire comme papa, justement.
Vous avez pris quoi, la batterie, un saxophone?
Exactement, la batterie, ouais. Je me suis mis à la batterie. Voilà, et puis j'ai expérimenté surtout aussi plein d'autres styles de musique. J'ai une période très heavy metal à la batterie, notamment. Et ce qui m'a plu après, c'est de pouvoir refaire ces musiques-là que j'avais abordées à la batterie avec la vielle à roue. En tout cas, c'est certain que mon... Que le fait que je sois batteur influence beaucoup mon jeu de vielle à roue.
Alors quand on écoute votre album, on est assez surpris parce qu'on se dit que la vielle à roue, ça peut être très rock, ça peut être très punk, ça peut être très dansant aussi. Il y a un morceau que j'aime bien qui s'appelle Break or Crank, mm-hmm. qui est, je sais pas, dans une boîte de nuit, ça pourrait bien passer, même si le son est un peu étrange, on n'a pas l'habitude. Ouais. Comment vous avez réussi à le faire rentrer dans l'époque?
Bon, c'est un instrument qui se prête à vraiment beaucoup, beaucoup de styles, de par le fait qu'il est très complexe et complet à la fois. On a plein de cordes différentes, on a des cordes très graves, on a de la mélodie, on a du rythme, et puis après on peut taper dessus et on l'utilisait comme une percussion, donc déjà la variété de sons est immense, et ce qui fait que ça colle d'autant plus par rapport à cet album au 21e siècle, c'est que ma vielle est électrique, donc je peux mettre des effets sur les différentes cordes et produire des sons un petit peu assez modernes.
La vielle à roue serait née en Occident il y a 1000 ans. Votre avis d'expert?
On n'a pas une histoire très précise, parce que 1000 ans, ça commence à faire longtemps, et c'était pas un instrument très connu à l'époque.
Puis il a beaucoup évolué. Ça s'appelait organistrum, je crois. Il était représenté, joué par les vieillards de l'Apocalypse. Alors, je ne sais pas si vous avez le physique de l'emploi.
Alors, l'organistrum, c'était pas tout à fait le même instrument. C'est un instrument qui se trouvait dans les églises et qu'on jouait à deux, mais qui avait ce même principe d'une roue qui frotte des cordes. Et c'est un petit peu après l'organistrum, en effet, que la vielle à roue est apparue. Et toutes les peintures qu'on retrouve, c'est des vieillards, des mendiants, des gens à qui manque un œil, ou des pauvres gens quoi, qui jouent cet instrument, curieusement.
Donc c'est un instrument qu'on pouvait trouver qui n'était pas cher? Ça, je suis assez étonné.
Ouais, c'est étonnant parce que c'est un instrument assez complexe, finalement.
Et est-ce qu'il existe un répertoire conséquent pour la vielle à roue? Est-ce qu'on a beaucoup écrit pour cet instrument?
Pas beaucoup. Il y a quelques œuvres qui datent du 17e, 18e, des œuvres baroques un petit peu. Puis après, il y a tout le répertoire des musiques traditionnelles. Puis ensuite, il y a quelques joueurs un peu plus contemporains qui ont écrit des pièces aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'écrits non plus.
L'âge d'or de la viola roue, c'était 18e siècle, c'était la période baroque, c'est ça?
Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est Marie-Antoinette, la reine, qui a voulu jouer de la vielle. Et du coup, les luthiers de la cour se sont mis à fabriquer des vielles. Donc, il y a eu une certaine mode à ce moment-là.
Est-ce qu'on peut dire qu'après la Révolution française, la vielle à roue est passée de mode?
Oui, quelque part, peut-être, c'est à ce moment-là. Et après, elle est revenue au moment de l'avènement des groupes folkloriques qui cherchaient des objets un petit peu identitaires et qui sont venus chercher la vielle à roue pour l'utiliser dans leur spectacle.
Ça reste quand même un instrument à danser, non?
Oui, oui.
Et vous, quand vous produisez avec cette vielle à roue, vous produisez dans des balles, dans des salles de concert, comment ça se passe? Vous faites danser les gens ou vous préférez qu'ils vous écoutent?
Alors j'aime bien les deux et c'est étonnant parce que je vois les deux types de public, quoi. Le public assis qui va juste écouter et le public déchaîné qui va danser jusqu'à pas d'heure, ça marche aussi et c'est, je trouve ça génial, quoi, que les gens puissent un peu réagir comme ils le souhaitent à ma musique.
Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas un peu déçu que les médias traditionnels ne s'emparent pas plus de ce style de musique avec ce type d'instrument? Parce que c'est pas vous qui êtes en tête, j'allais dire, des hit parades, même si le terme est un peu désuet. Mais enfin, la vielle à roue, il n'y en a pas dans beaucoup de playlists sur les radios.
Non, c'est sûr. Bah après, c'est... Je pense pas que je sois déçu. Après, c'est vrai que j'aimerais que l'instrument soit un petit peu plus mis au goût du jour, disons. Mais après, c'est aussi intéressant ce côté un peu rareté de l'instrument et aussi quelque chose d'intéressant. Donc j'y suis bien comme ça. Bien.
Alors, la vielle à roue a été sauvée par son côté populaire, c'est-à-dire un instrument qui aime les musiques qui font danser. Il y a eu aussi la vague, le renouveau, les musiques de terroir dans les années 70, les hippies, ouais. Tout ça. Est-ce que le rock progressif et le jazz aiment la vielle à roue?
Oui.
C'est un oui matrimonial.
Je ne vois aucune musique qui n'aimerait pas la vielle à roue.
Vous avez travaillé pour le cinéma, j'ai vu sur votre site que vous avez fait des musiques de courts-métrages.
Oui. L'univers fantastique, en général, plutôt l'univers du Seigneur des Anneaux, ce genre de choses... dans lequel je suis un peu tombé à l'adolescence, m'attire encore beaucoup. Les dragons, la magie, tout ce qui est un peu fantastique, quoi, irréel, qui laisse parler l'imagination. Je vous invite à... C'est un petit peu en rapport avec l'album quand même, c'est sur la première musique de l'album qui s'appelle Le Château Magique. J'ai fait un clip animé, en animation, donc en image de synthèse, en 3D. Que j'ai réalisé, donc c'est quelque chose qui n'a pas forcément rapport complet avec la musique,
Donc vous êtes musicien et vous touchez à la 3D aussi, à l'animation.
Ouais, voilà. C'était mon premier véritable projet en animation, mais ça fait très longtemps que je dessine en 3D un petit peu.
Vous avez fait quoi comme école, Émile Cole, à Lyon, quelque chose comme ça?
Non, pas du tout. J'ai fait une école d'ingénierie en informatique. Et à la suite de ça, j'ai décidé de lancer donc, cette carrière musicale qui fonctionne bien. Voilà, c'était un peu un retour aux sources, mais artistique.
Jouer de la vielle à roue au 21e siècle, c'est bien. Est-ce que c'est un défi? Est-ce qu'il faut s'accrocher à la manivelle? Est-ce que le projet est viable en France ou à l'étranger?
Mon projet fonctionne surtout à l'étranger, en fait. Je voyage beaucoup.
Quel pays?
À travers le monde. Mais je suis parti ces deux dernières années en Inde, en Nouvelle-Zélande, 3 fois aux États-Unis, en Italie, plusieurs fois. Et c'est, je pense que ça a aussi un rapport avec Internet et le fait que les vidéos permettent aux gens de découvrir ces musiques-là, justement. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. C'est une vidéo que j'ai mise en ligne, une vidéo de Via la Roue, quoi, et qui a énormément fonctionné. Et à partir de là, ça a ouvert plein de portes et partout dans le monde parce que les vidéos, c'est accessible.
Guillaume Desque, le 9 mars 2019, où est-ce que vous êtes?
Alors j'ai le bonheur d'être à l'Élysée Montmartre, à Paris. Donc finalement c'est la première fois que je vais présenter mon concert solo à Paris. Donc ça va être une grande première pour moi.
Vous chantez pas, mais de temps en temps, sur le disque, on vous entend pousser des cris.
Ouais, ça m'arrive et le chant est quelque chose qui m'attire de plus en plus et que j'espère développer très prochainement.
Et vous pensez qu'un jour vous allez écrire même des paroles, quelque chose comme ça?
Alors ça c'est une autre question, plus difficile, mais pour le moment pas de paroles et puis on verra ce qui sort. Et disons que quand j'écoute de la musique, j'ai toujours du mal à écouter les textes. La musique me prend aux tripes plus rapidement que les paroles, donc si je dois chanter, il faut que je reste un peu cohérent avec moi-même, donc pour le moment les paroles n'ont pas une importance capitale, mais bon, vive la vie à la roue.
Guillaume Desque, Vision. Merci.
Merci à toi.
C'était Guillaume Desque. Le nouvel album s'appelle Vision. Il sera en concert le 9 mars à Paris, à l'Élysée-Montmartre, pour une soirée folk médiévale, voire nu industrielle. En tout cas, ça va être follement bruyant.
Music du monde sur RFI.
Il est né un 8 janvier en 1947. Il s'est envolé un 10 janvier en 2016. David Bowie a proposé tout au long de sa carrière des musiques surprenantes portées par des personnages extravagants. En 71, il sort l'album Hunky Dory dans lequel figure le célèbre Life on Mars. Alors voici une version inédite dans la voix de Sandrine Caquet, le piano de Babix, la flûte de Gidru et le violoncelle de Guillaume Latil. Au revoir.
Fighting in the dance hall, oh man, look at those cavemen go. It is the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy, oh man. Why
wonder if he'll ever know he's in the best-selling show. Is there life on Mars? Is there life on Mars? It's a god of foam, small affair to the girl with the mousy hair. But her mother is yelling no, and her father has told her to go. But her friend is nowhere to be seen as she walks through a sunken dream to the sick with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But a fear with a saddening boy, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dead zone. Oh man, look at those cavemen go. It is the freakiest show. Take a look at them. On sale again. See the mice and the minion hordes, from Ibiza to the Norfolk boards. Rule Britannia is out of bound to my mother, my dog and clown. But the fear with a saddening boy, 'cause I wrote it 10 times before. It's about to be read again as I ask you to focus on
selling show.